Bonsoir. Dans un rapport publié la semaine dernière, le ministère du Plan indique que le taux de pauvreté a baissé en RDC. D'après les résultats de ce rapport, il y a une certaine amélioration quant à l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'éducation. Quelle analyse faire de ce rapport? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 27 octobre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Marcel Kanda, conseiller macroéconomique au ministère du Plan. Monsieur Kanda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Valentin Moubaké, cadre de l'UDPS, parti de l'opposition et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Moubaké, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, province orientale. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Mathieu Bawere depuis Goma au Nord Kivu. Le rapport publié par le ministère du Plan semble être erroné car la pauvreté s'observe dans tous les secteurs. Pour exemple, à Goma, le taux des maladies hydriques s'accroît suite à l'absence de l'eau potable dans toute la ville. Pour ce qui est de l'électricité, c'est possible de passer tous les mois sans électricité et d'en payer une facture forfaitaire. Quant à l'éducation, nul n'ignore qu'en RDC, l'enseignement maternel et primaire n'ont jamais été gratuits. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le taux de pauvreté a baissé en RDC selon le rapport de l'enquête dénommée 1, 2, 3 menée par l'Institut national de la statistique et publiée mercredi 20 octobre dernier à Kinshasa par le ministère du Plan. C'est une enquête à trois volets sur l'emploi, sur le secteur informel et sur la consommation des ménages entre 2012 et 2014. Béry Louchaka pour les détails.
Les résultats de cette enquête appelée 1, 2, 3, comme vous l'avez dit Kelly, sont le produit de la période 2012-2013 comparé à ceux de 2005, année de la dernière enquête, affirme le ministre du Plan, et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Trois volets étaient analysés au peigne fin, indique Célestin Vounabandi. Il s'agit du secteur de l'emploi, de l'informel et celui de la consommation des ménages, en l'occurrence de l'énergie. De manière générale, une nette amélioration se dégage de cette enquête, comme quoi la pauvreté monétaire a reculé entre 2005 et 2012 grâce non seulement à la mise en marche du programme des 5 chantiers du président Joseph Kabila, mais aussi à l'intensification par le gouvernement actuel des réformes économiques.
L'incidence de pauvreté a baissé d'environ 8 points, passant de 71,3 à 63,4 sur 7 ans.
Au ministre de nuancer tout de même que la pauvreté a baissé plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Les trois secteurs concernés ont réellement confirmé la baisse de la pauvreté selon le ministre du Plan, avec quelques chiffres clés à l'appui.
Au niveau de l'éducation, on a constaté que le taux net de scolarisation au primaire est passé à 68,6% contre 55,1% en 2005. Tandis qu'au secondaire, il est évalué à 36% contre 25% en 2005. Le taux d'accès à l'électricité est passé de 6% qui avait été constaté en 2005 à 15% en 2012. Quant à l'accès à l'eau potable, on constate 50,2% d'accès à l'eau potable des ménages contre 22% en 2005.
Cependant, d'après le rapport de l'indice de développement humain du PNUD publié en mars 2013, la RDC figurait pour l'année 2012 à la 186e place sur 186 pays. Le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement a indiqué tout de même que le pays a fait des progrès depuis 2000 malgré les nombreux conflits qui le déchirent.
Merci Béry Louchaka pour tous ces détails. Marcel Kanda, je rappelle que vous êtes conseiller macroéconomique au ministère du Plan. Sur base de quoi ce rapport affirme que les taux de pauvreté a baissé en RDC?
Oui, madame, merci pour la parole. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Ce rapport est le résultat d'une enquête qui a été menée sur terrain. Il y a environ plus de 22 000 ménages qui ont été enquêtés à travers sur toute l'étendue de la République, en tenant compte de 26 nouvelles provinces. Cette enquête a été analysée et le rapport a été publié sur base de cette analyse. Donc, ce sont des données récoltées sur terrain.
Alors, il y a par exemple cet auditeur qui nous a écrit de Goma, Mathieu Bawere, qui estime que ce rapport semble être erroné, car la pauvreté s'observe dans tous les secteurs. Il donne par exemple, à Goma, le taux de maladie hydrique s'accroît suite à l'absence de l'eau potable dans la ville. L'électricité, il n'y en a pas, pratiquement, et les gens sont obligés de payer des factures forfaitaires. Et quant à l'enseignement n'est pas gratuit.
Je comprends parfaitement la réaction de cet auditeur. En effet, en 2005, la pauvreté s'est située à 71%. Et maintenant, elle se situe autour de 63%. Donc, en 7 ans, une baisse d'environ 8 points. Et quand nous regardons ces résultats, nous pouvons dire que 63% des Congolais sont encore pauvres. C'est tout à fait normal que les gens ne ressentent pas encore cela. Mais en toute évidence, parce qu'il s'agit des résultats du terrain, c'est que nous appelons des enquêtes empiriques. Donc ces résultats traduisent la réalité.
Et donc le taux de pauvreté a baissé.
Le taux de pauvreté, j'allais dire, a baissé, mais peut-être que cela n'est pas encore totalement ressenti.
Mais il y a quelque temps, le ministre disait que c'était mitigé par rapport à la baisse de la pauvreté. Le bilan était mitigé par rapport à la baisse de la pauvreté en RDC.
Effectivement, là, vous êtes en train de faire référence aux résultats de la revue du DCRP2 et du programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire, il y a eu des résultats, mais les résultats peut-être qui n'ont pas traduit les ambitions et les attentes des uns et des autres. Des résultats, mais qui n'arrivent pas encore à atteindre les cibles que nous voulons. Donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est que il y a encore des efforts qui doivent être faits. 7%, ce n'est pas encore assez, mais c'est quand même quelque chose. Il y a un pas qui est lancé. Il faudrait poursuivre les efforts pour atteindre l'idéal.
Et que dire du rapport de l'indice de développement du PNUD publié, du rapport de 2012 et même de 2013, où la RDC est classée pratiquement au bas de l'échelle, le taux de pauvreté reste toujours élevé selon ces rapports.
Effectivement, selon le rapport sur le développement humain, nous avons un problème avec ce rapport parce que les données, si vous voulez, les statistiques qui ont été prises dans ce rapport n'ont pas pris en compte certaines évolutions au niveau du pays. Notamment, dans notre pays, nous sommes passés du système de comptabilité nationale de 68 au système de comptabilité nationale de 93. Ce qui devait se traduire nettement par une forte amélioration du PIB, étant donné que dans le calcul de cet indice, de cet indicateur, il y a trois variables essentielles dont on prend en compte, qu'on tient compte. Il y a premièrement le PIB, deuxièmement c'est la durée des scolarisations, donc l'éducation, et troisièmement c'est l'espérance de vie. Alors, par rapport à nos statistiques, la Banque mondiale a reconnu, le PNUD également, parce qu'ils ont un timing fixé pour prendre en compte les statistiques. Dès que le pays n'a pas publié les données à temps, ils font leur propre simulation. Donc les simulations qui ont été faites, c'est des simulations à partir du recensement de 84. Donc ça n'a pas pris en compte les nouvelles statistiques. Et l'effort que nous sommes en train de faire d'ici peu, il y a le rapport sur l'indice, le rapport national qui va être publié. Vous verrez que ce rapport donne d'autres éléments. Donc, en toute logique, le rapport mondial devait être alimenté par les rapports nationaux. Et ça, c'est le reproche que nous formulons à l'endroit du système des Nations Unies, qui devrait en principe prendre compte. Alors, quand nous regardons les statistiques à ce sujet, pour ce qui concerne, par exemple, la durée moyenne de vie à l'école, ils ont pris 3,5, alors que nous sommes à 8,2, si je ne me trompe. Pour ce qui concerne le PIB, ils sont à 360 environ dollars par habitant, par an, et nous sommes à plus de 600. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut traduire une nette amélioration. Par rapport à l'espérance de vie, ils sont à, si je ne me trompe, à 48 ans en moyenne, et nous sommes à 51. Donc, vous voyez, si nous prenons en compte ces différentes statistiques, ces nouvelles statistiques qui sont fournies par le pays, nous pouvons nettement gagner plus de 10 points. Je crois qu'on va gagner autour d'après les simulations au-delà de 15 places.
Alors, une enquête menée sur 22 000 ménages sur une population de plus de 60 millions, est-ce que ça suffit pour dire que le taux de pauvreté a baissé en RDC?
Le problème, c'est de regarder à la méthodologie. Quelle est la méthodologie qui a été utilisée? La méthodologie, c'est une méthodologie statistique à tirage aléatoire à plusieurs niveaux. Tant que la méthodologie est respectée et que le phénomène est récurrent, nous pouvons aboutir à des résultats plausibles.
Alors, parlons de l'électricité, il y a Pierre Kazadi.
Bien sûr qu'il y a toujours un seuil de confiance.
Alors, il y a Pierre Kazadi de Kinshasa qui dit ceci. Il se demande comment le ministre peut parler d'amélioration à l'accès à l'électricité pendant que le DG de la SNEL est interpellé au Parlement pour inefficacité.
Effectivement, sa préoccupation est pertinente. En effet, pour ce qui concerne l'accès à l'électricité, en 2005, en effet, nous étions à 5%. Maintenant, nous sommes à 15% de la population qui a accès à l'électricité. Quand vous regardez par rapport à l'ensemble du pays, 15%, ce n'est pas encore grand-chose. Parce que nous devons aller au-delà des 15%. Peut-être atteindre, pourquoi pas, toute la population. Mais le problème, c'est de regarder dans quel sens on a évolué. Est-ce que nous avons évolué dans un sens positif? Et ça, c'est louable. Et maintenant, mesurer les efforts à faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés.
Est-ce que ça veut dire qu'en 2005, là, moins de 15% de la population avait accès à l'électricité?
Effectivement.
Valentin Moubaké, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, parti de l'opposition et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Quelle lecture vous faites de ce rapport du ministère du Plan?
Bon, toutes les questions que vous venez de poser traduisent bien le désarroi que vos éditeurs ont pour apprécier ce rapport dans le sens de la diminution réelle de la pauvreté. J'aurais bien voulu que le ministère du Plan, ici représenté, nous définisse ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas l'accès à l'électricité. La pauvreté, ce n'est pas l'accès à l'éducation, surtout quand on oscille autour de 36%. Donc, la pauvreté devait être définie, et à partir de là, maintenant nous dire quand est-ce qu'une personne est pauvre. Et cela n'a rien à voir avec une enquête qu'ils auraient faite par l'Institut National des Statistiques. Selon l'usage courant, la pauvreté caractérise la situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans un contexte donné, dans un milieu donné. Voilà la pauvreté.
Mais l'eau, l'électricité, est-ce que ça ne fait pas partie de ces
éléments? Il n'y a pas que ça. Maintenant, si nous disons que quand une personne ne dispose pas, l'état, cet état-là, d'une personne qui n'a pas de ressources suffisantes pour vivre décemment, comment alors caractériser une personne pauvre? Eh bien, une personne pauvre, c'est une personne, nous la disons, cette personne-là pauvre, lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté choisi. Et ce seuil-là est fixé en fonction des éléments alimentaires et non alimentaires nécessaires à la survie quotidienne.
Qui sont entre autres,
le panier alimentaire, il y a des éléments alimentaires et des éléments non alimentaires. Dans le groupe alimentaire, on dit une personne humaine, pour vivre, pour sa survie quotidienne, il a besoin de 2400 calories par jour. Le minimum. 2300-2400 calories par jour. Enfin, on n'est pas loin de cette vérité-là. Mais il y a aussi des biens non alimentaires. C'est sur cela que l'enquête s'est posée. L'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation, l'accès au logement. Il n'en a pas parlé. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments que l'indice du développement humain, à juste titre, vous avez posé la question, que l'indice du développement humain intègre, au lieu de rester sur des chiffres, des agrégats macroéconomiques, de taux de croissance, qui n'ont aucun impact réel au niveau de la société. Donc, le ministère du Plan aurait dû mener son enquête sur les deux volets. Le volet de l'énergie alimentaire, des calories dont le corps humain a besoin, et c'est par là qu'on dit qu'il faut 2 dollars par jour, par habitant, pour acheter de quoi manger. Et il y a les autres éléments, l'accès à l'éducation, l'espérance de vie, l'accès aux soins de santé, etc.
Le fait d'avoir mené l'enquête sur un seul volet ne crédibilise pas ce rapport ?
La preuve, si nous disons 2 $ par jour et par habitant, si nous prenons un papa avec sa femme et 3 enfants, ça fait 5 personnes qui doivent avoir chacun 2 $ par jour, ça fait 10 $ par ménage. Prenez ça fois 26 jours de l'année, enfin du mois, je ne prends même pas 30 jours, ça vous fait dire 260 $ par mois. Dites-moi combien des Congolais ont un revenu, un salaire et un revenu, ça dépend du secteur formel ou informel, de 260 $ par mois. Voilà là où se situe le problème. Et donc, ils prennent des chiffres sur base des croissances qui découlent du secteur minier, des télécommunications, qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qu'on comptabilise sur le Congo. Et quand il prend l'électricité, ben, j'aimerais bien savoir que ces chiffres-là, de ces ménages-là, il parle de 22 000 ménages enquêtés. En 2005, ils étaient à 12 000 ménages enquêtés. Et les ménages enquêtés à 2000, maintenant là, les 22 000 ménages, n'ont plus rien à voir avec les 12 000 ménages de 2005. C'est-à-dire l'échantillon n'est plus le même. Ça veut dire la comparaison n'est plus possible. Ça veut dire, au départ, cette enquête-là, on peut déjà poser la question de savoir, méthodologiquement, est-elle valable ? Alors, il y a d'autres choses que nous pouvons dire, mais pour l'instant, voilà comment nous analysons les lacunes de cette enquête-là, qui se base sur des chiffres macroéconomiques, dont les résultats ne sont pas forcément à comptabiliser sur l'économie du Congo, et donc, dont les retombées sociales, accès à l'éducation, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, j'ajoute l'accès à la santé, l'accès au logement dont il n'a pas parlé, l'accès au transport, tous ces éléments-là ne sont pas accessibles aux Congolais. Et il n'y a pas que 63% des Congolais qui sont encore pauvres, comme il a dit. Les chiffres en notre possession disent 80% de la population congolaise est réputée pauvre.
Chômage.
Pauvre, je dis pauvre.
Merci Valentin Moubaké, professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, province orientale. Quelle est votre lecture ou quelle lecture portez-vous sur ce rapport publié par le ministère du Plan qui estime que le taux de pauvreté a baissé en RDC?
Bien, merci beaucoup madame. Bon, je pense qu'il y a, il faut quand même, quand on regarde ce rapport tente à justifier d'abord, à expliquer aussi, il y a des quelques évolutions, on ne peut pas les nier. On voit quand même quelques évolutions sur le terrain par rapport à la situation qui se passe dans le pays. Quand on voit la politique de grands travaux publics qui se font, des infrastructures, tout ça, ça quand même, c'est des revenus qui sont injectés dans l'économie nationale, donc ils peuvent influer sur les niveaux de vie des gens. Il y a de nombreux projets aussi bien financés par le gouvernement national que par des partenaires étrangers qui ont sans doute une incidence qui peuvent modifier ça. Mais il faut dire aussi que le fait qu'il y a il y a une amélioration des conditions sécuritaires qui fait que des zones où les gens avaient difficilement accès à leur milieu de travail, milieu de vie, ça permet donc à ces gens de pouvoir maintenant retravailler un tout petit peu leur terre et de gagner un peu plus d'argent. Donc ça peut expliquer en partie ces petites évolutions qu'on observe là. Mais ceci dit, il faut revenir. Si on revient donc à la réalité, on va se rendre compte qu'effectivement, les progrès qu'on a là sont insignifiants. Donc ça ne peut pas du tout, ça ne peut pas du tout faire l'objet, si vous voulez, d'une grande fierté pour dire voilà, on a fait des progrès. Parce que le dernier rapport, les derniers rapports, on veut bien les contester, du PNUD sur l'indice de développement humain, et nous place à l'avant-dernière place, juste devant le Niger. Même la RCA, qui est aussi un pays instable, déchiré par de nombreuses guerres, est devant nous. Voyez-vous, donc on a plusieurs, c'est une situation dramatique. Et moi, et je trouve qu'il y a là, même au sein de l'équipe gouvernementale, qu'il y a une espèce de, je pense, il y a une contradiction en termes de statistiques. Alors, parce qu'il y a un document qui a été publié par les services du Premier ministre, un communiqué officiel signé par le Premier ministre lui-même, et qui disait que le taux de pauvreté en milieu rural est de 76%. Ce document date de cette année, du mois de mars. Donc, d'où vient alors cette histoire de dire qu'on est passé à 63%? Il y a un écart trop considérable par rapport à ça. De même, quand on parle quand on veut parler du recul de la pauvreté, il faut voir un facteur important, c'est les moyens de subsistance des gens. De combien dispose un Congolais aujourd'hui pour vivre? eh bien, c'est moins d'un dollar par jour. Et les revenus des citoyens proviennent de quoi? Proviennent de leur travail, de l'emploi. Alors, or, cette enquête ne prend pas en compte cette dimension de l'emploi. Et les taux de chômage, si j'en crois encore le même document du Premier ministre qui date du mois de mars de cette année, le taux de chômage au Congo est de 80%. Donc on voit bien là que s'il y en a 80% de notre population qui est au chômage, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de moyens pour vivre. Ils sont donc dans le seuil, en dessous du seuil de pauvreté. Alors, maintenant, on peut se poser la question, pour revenir, moi je voudrais quand même qu'on m'explique un peu plus la question de la démarche qui a été suivie pour faire ces enquêtes. Parce que pour moi, pour qu'une enquête soit valable, elle doit, l'échantillon qui est construit pour étudier la population congolaise doit être très représentatif de la population d'enquête. Alors, pouvez-vous nous dire un peu comment vous avez conçu cet échantillon, en quoi est-il représentatif de la population congolaise pour permettre de faire une extrapolation? Parce que tout à l'heure, vous avez vous-même mis en cause les fondements de l'enquête du PNUD. Notamment, vous avez dit que c'est basé sur les recensements scientifiques de 84. Alors, moi, je voudrais savoir, vous, votre recensement que vous avez sur lequel vous vous basez, date de quand? Alors, quand ça a été mené et où? Parce que je ne suis pas du tout, je n'ai pas été informé, je ne suis pas en tout cas au courant d'une enquête conduite par le Congo pour faire un vrai recensement. C'est maintenant que j'apprends qu'il y a une structure qui a été mise en place pour identifier les gens. Alors, voilà ce que moi je pourrais dire à ce niveau de débat.
Alors, on va prendre pour vous, professeur Maïdo, cette réaction qui nous vient de Paris en France.
Okitapo Ilonga, depuis Paris, France. Cette affirmation ne repose pas sur de données objectives. Le seul critère objectif pour une appréciation rationnelle, c'est l'accès aux besoins de base, l'eau, les soins de santé, l'électricité, le transport et l'éducation pour tous, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui au Congo.
Alors, c'est une contribution que cet auditeur de Paris apporte à l'émission, professeur. Est-ce que ce sont les éléments des bases pour parler de la baisse de la pauvreté?
Oui, effectivement, quand on parle de la pauvreté, baisse de la pauvreté, on doit voir les moyens, les conditions d'existence des citoyens. Or, qu'est-ce qui fait qu'un citoyen ou un individu puisse exister, puisse vivre? Alors, il y a sans doute plusieurs éléments qui font cette existence. Parmi ces éléments, on a entre autres l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la nourriture, les revenus qu'on gagne, l'éducation, etc. Or, si on regarde bien ces paramètres-là, il y a des soucis à se faire. Il y a des soucis à se faire. L'enseignement primaire qui est supposé être l'enseignement gratuit pour être obligatoire ne l'est pas encore réellement. Donc, il y a toujours des gens qui sont renvoyés de l'école parce qu'ils ne peuvent pas payer la prime qu'on demande à leurs parents. Alors, on regarde, même quand il y a des gens qui ont accès, ceux qui ont accès à ces services-là, je veux dire à l'eau ou à l'électricité, mais de quelle qualité est ces services-là qu'on obtient? L'eau qui coule de notre robinet n'est pas potable. L'eau de la région des eaux, l'électricité qu'on a là, combien de fois on est délesté, on peut passer une semaine, un mois sans électricité. Et même ici, même dans des grandes villes comme Kinshasa ou Kisangani, il y a même des quartiers de centre-ville, je veux dire Kinshasa pour Gombe ou Kisangani, Makiso, qui connaissent également ces phénomènes. Alors on peut se poser la question de la qualité de ce service-là pour bien des gens. Et l'éducation, si on regarde l'éducation, parce que c'est le secteur dans lequel je travaille, parce que je suis enseignant, alors la qualité est encore plus laisse plus à désirer. Nombre de nos diplômés d'État aujourd'hui sont analphabètes quand ils viennent à l'université.
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure. Marcel Kanda, vous allez réagir aux analyses du prof Maïndo et de M. Moubake. Mais avant cela, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maurice Mouyananou, depuis la ville-province de Kinshasa. Ce rapport n'est pas crédible. Il est très complaisant. Il vise deux choses. Primo, démonter du peuple congolais qui croupit injustement dans une misère extrême, incommensurable, sans pareil. Et secondo, promouvoir le pillage des richesses par le exercice au pouvoir. Par ailleurs, le ministère du plomb doit savoir que le Congolais appuie et soutient les rapports du PNUD sur les dites du développement humain. Une juge fondée, fouillée et crédible.
Alors, réaction par rapport à ce point de vue de Maurice qui nous écrit de Kinshasa, qui estime que ce rapport n'est pas crédible, il est complaisant.
Très bien. Je salue d'abord et je félicite. Je me réjouis d'avoir entendu la bonne définition de la pauvreté. La bouche de M. Moubaïké, je me réjouis vraiment qu'il ait bien défini. En effet, pour faire le calcul de la pauvreté, par quoi est-ce qu'on commence? Je rappelle à votre intention que cette enquête a porté sur 1. L'emploi, 2. La consommation de ménage, c'est-à-dire les conditions de vie des ménages. Quand on parle des conditions de vie des ménages, on voit tout ça, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, ainsi de suite, l'éducation. 3. Sur le secteur informel. Et quand on définit la pauvreté, on peut la définir sous plusieurs approches. Il y en a qui définissent selon l'approche des avoirs, on regarde si quelqu'un possède ceci ou cela, et la pauvreté de manière terre à terre peut se définir comme étant un manque
d'accès. Et vous le définissez comment?
Justement, je vais y arriver. C'est un manque d'accès. Accès, ça peut être un manque de l'accès à l'eau, à l'électricité, ainsi de suite. Mais l'approche qui a été ici, c'est une approche qui englobe tout cela. Nous avons commencé par une approche monétaire, c'est ce que M. Moubaïké a dit, et donc selon cette approche, on commence par définir le seuil de la pauvreté, au niveau monétaire et au niveau non monétaire. En effet, la pauvreté monétaire, c'est la somme de ces deux pauvretés, donc du seuil de pauvreté monétaire, j'allais dire, du seuil de pauvreté alimentaire et le seuil de pauvreté non alimentaire. Et comment on définit le seuil de pauvreté alimentaire? Le seuil de pauvreté alimentaire correspond au montant annuel minimal qu'un adulte doit avoir pour couvrir le besoin essentiel de 2300 calories par jour durant toute l'année.
C'est pas différent, c'est
exactement. Effectivement, c'est exactement ce qu'il a dit. Et le seuil de pauvreté non alimentaire, c'est le seuil correspond au minimum qu'un adulte doit couvrir d'autres besoins essentiels non alimentaires et qui équivaut à un renoncement à la consommation alimentaire additionnelle. C'est-à-dire, nous avons commencé par définir ces deux seuils, et en définissant ces deux seuils, c'était pour connaître la limite de la pauvreté. Et cela nous permettait maintenant, à partir de l'enquête, dire qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. À travers cette enquête, après avoir défini le seuil de la pauvreté, voilà les résultats que nous avons obtenus. Concernant la pauvreté alimentaire, par an, on est à 320 000 francs congolais pour la pauvreté alimentaire. La pauvreté non alimentaire, on est environ à 86 000 francs. Quand vous faites la somme, ça vous fait près de 406 000 francs congolais par individu et par an. Et si vous divisez par 365, ça vous fait environ 1,5 $. C'est ça le seuil pour notre pays. Alors, nous commençons maintenant à regarder, bien sûr, en regardant la pauvreté alimentaire et non alimentaire, le panier de la ménagère, ainsi de suite, qui sont au-delà de ces seuils, ou qui sont en deçà. Et en faisant ça, on se rend compte que ce sont les résultats de l'enquête sur le terrain, donc c'est une approche empirique, qui nous révèle que 63,% d'individus, de Congolais, sont en deçà du seuil. Ce qui veut dire que la différence, c'est des personnes qui sont au-delà des seuils. Donc, comparé à la situation de 2005, il y a eu évidemment un progrès. Donc, c'est pour dire à M. Moubaïké que nous avons bel et bien pris en compte cette situation en commençant par définir le seuil de la pauvreté. Après, nous avons regardé les autres considérations, comme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, comment les choses ont évolué. Voilà un peu ce que
alors, il y a le professeur Maindo qui a parlé de cette contradiction des chiffres au niveau du gouvernement. Par rapport à la pauvreté, pour le cabinet du Premier ministre, on parle de 76% de taux de pauvreté et vous, vous parlez de 63%. Le ministère du Plan.
Non, le ministère du Plan fait partie du gouvernement. Et le gouvernement n'a qu'un seul langage. Donc cet exercice, bien sûr, a été fait au travers du ministère du Plan, mais c'est le gouvernement qui l'a fait. C'est un exercice fait par le gouvernement et nous avons travaillé en tandem avec les experts et de la Banque mondiale
et du PNUD pour avoir ces résultats. Donc, ces résultats, ce sont des résultats issus d'une enquête. On peut avoir eu, peut-être par le passé, des résultats sur base d'assimilation. Moi, je me rappelle, quand nous étions en train d'élaborer, par exemple, le DCRP de deuxième génération, à l'absence de l'enquête 1, 2, 3, ce que nous avons fait des simulations qui nous ont révélé en 2010 que la pauvreté avait baissé d'un pour cent, sur base des données d'enquête. Mais maintenant, là, nous ne sommes pas en phase de simulation, nous sommes en phase des données de terrain.
Merci Marcel Kanda. Valentin Moubak, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la Tanzanie.
Charles Kambale Matayanga, je suis l'hôtel de Mwanza à Tanzanie. Je suis d'avis et je suis très heureux que la pauvreté est diminuée dans notre pays, mais cela pourvu que la sécurité, les routes, tant aériennes que terrestres, ainsi que l'électricité et l'arrivée de bons investisseurs soient améliorées.
Alors cet auditeur encourage le gouvernement, il estime que c'est encourageant, mais pourvu que la sécurité ainsi que l'arrivée des bons investisseurs soient accélérées.
Bon, nous avons toujours été, nous, sceptiques sur ce, parce qu'on a dit ici, par le représentant du plan, que cette diminution de la pauvreté monétaire était encouragée, et d'ailleurs le professeur Maïndo l'a répété aussi, par la politique des grands travaux et des investissements qui ont eu lieu au pays. Donc cela aussi a amélioré l'impact sur la vie sociale. Mais nous pensons que le taux des investissements, c'est-à-dire la hauteur des capitaux injectés dans le pays par rapport aux bénéfices que les Congolais en ont retirés, ce taux-là est très faible. Je vous donne un simple exemple. Quand au Katanga, M. Gettler, Glencore, retire de Kolwezi le cuivre et le cobalt, il empoche l'année passée 6 milliards de dollars. Cela est comptabilisé sur le compte de la République démocratique du Congo comme une richesse produite au Congo. Mais où est l'argent que M. Glencore a retiré du Katanga? Cet argent se trouve dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire le Congo n'a rien bénéficié, si pas très peu, de ce bénéfice-là. Et de la même manière, regardez les grands travaux qui se font ici. Vous savez quelle est la part des manœuvres congolais quand les Chinois font des routes par rapport aux Congolais? Donc ce sont des retombées minimes par rapport aux investissements qui sont déclarés. L'AGECAMINE, madame, employait 36 000 ouvriers. Tous les mining au Katanga, comme l'AGECAMINE n'existait plus, n'ont même pas 10 000 travailleurs. Voilà la contradiction dans tout ce qui se fait, tout ce qui est produit par ce rapport-là. Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur ce que disait, à juste titre, M. Bayindo. La contradiction entre les résultats de cette enquête-là, de ce rapport, et celui de l'indice du développement humain du PNUD, justifie donc cette contradiction-là. Il n'est pas normal que nous ayons un taux de pauvreté qui a diminué de cette ampleur, de plus de 40% à peu près au pays, pendant que nous avons 80% de Congolais qui sont au chômage. Donc cette contradiction-là ne s'explique pas autrement que par, selon nous, la mauvaise prise en compte des paramètres devant être inclus dans le calcul de cette.
Malgré les explications données par Marcel Kanda du ministère du Plan, vous estimez toujours que ce rapport n'est pas crédible.
Mais on voit comment les Congolais vivent. Et c'est eux qui devaient nous dire.
Je vais vous donner la parole,
Monsieur Kanda. Si la pauvreté a diminué ou non. Le 1,5 dollars par jour du seuil de pauvreté combiné, tenant compte des paramètres alimentaires et non alimentaires, et même si nous prenons le 1,5 dollars par jour, ce qui est d'ailleurs un taux dépassé dans l'évolution des calculs des seuils de pauvreté, il y a longtemps qu'on a quitté le 1 dollar par jour, aujourd'hui on est autour de 3 dollars par jour.
Ça dépend des pays.
Oui, mais ça dépend des pays, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Donc je dis, il y a longtemps qu'on a quitté le taux de 1 dollar par jour, maintenant on est autour de 3 dollars par jour dans les pays comme les nôtres, je dis bien comme les nôtres, encore que nous avons des ressources qui peuvent nous permettre de nous légitimer un autre taux. 1 dollar et demi par jour, même ça, combien de Congolais peuvent-ils dire aujourd'hui dans un ménage de 5 personnes, comme j'ai dit, le papa, la maman et 3 enfants, chacun à 1 dollar par jour, fois 5, ça fait 7,5 dollars par jour, multiplié par 26 jours du mois, je dis par 30 jours, qui a 220 dollars par jour au Congo? Quel est le taux des gens qui ont 220 dollars par jour? Voilà. Un simple calcul vous montre bien que Tout ceci, ce sont des chiffres sur papier, mais la réalité des choses dans la vie quotidienne des Congolais n'a rien à voir avec ces chiffres.
Alors, selon le ministre Vunabandi, la pauvreté monétaire a reculé entre 2005 et 2012 grâce non seulement à la mise en marche du programme des 5 chantiers du président Kabila, mais aussi de l'intensification par le gouvernement actuel des réformes économiques, M. Moubaké.
De quelles réformes économiques s'agit-il? Je voudrais bien comprendre. Quand nous prenons... Mais écoutez, on peut en parler. Quelles réformes économiques? Regardez le Congo, les richesses produites au Congo. Nous n'avons pas un secteur, une industrie primaire n'existait pas. En fait, le secteur primaire, c'est celui de la collecte directe du traitement des produits de l'agriculture, de la pêche, des mines et de la forêt. Secondaire, c'est le traitement de ces produits-là. Ni primaire, ni secondaire, encore moins tertiaire, les services. Qu'est-ce qui nous reste, nous, au Congo? Qu'est-ce qu'on reste pour produire des richesses? Ça veut dire, si les mines progressent au Congo, les télécommunications progressent au Congo, les mines, disons de manière générale, l'industrie extractive, toutes ces industries-là ne produisent pas des richesses pour le Congo.
Merci.
Ce sont des richesses qui vont ailleurs.
Merci.
Donc, on ne peut pas évoquer les grands travaux ou toutes ces réformes-là, code minier et j'en passe, qui ne font que homologuer le pillage de notre
pays. Merci, Monsieur Moubaké. Les auditeurs sont très nombreux à nous écrire. Jérémy Bagoula dit ceci, je voudrais savoir. Ils ont aménagé combien des foyers en eau potable, en électricité? Ils ont construit ou même réhabilité combien des barrages? Qui nous fassent les statistiques? C'est scandaleux de publier ce fameux rapport pendant que nous observons des cas de noyade dans le lac Kivu par manque d'eau potable en pleine ville de Bukavu et Goma. Insécurité grandissante à cause du noir avec des massacre ça et là. Mathéus Kanga, qu'on cesse de nous distraire par qui, comment et sur base de quoi les enquêtes ont été menées, parce que nous savons tous que la part de chaque Congolais au budget national est de moins de 250 francs congolais par jour. Rémi Kabiona, c'est la population pauvre qui devrait sentir les retombées du taux de pauvreté. Que dit-elle? Tromper n'est pas facile. Professeur Maïndo, les auditeurs, la majorité des auditeurs en tout cas, rejettent ce rapport du ministère du plan.
Oui, en fait, on peut. Je comprends que les gens puissent rejeter ce rapport parce que le ressenti réel pour les gens, c'est le vécu quotidien, tous les jours. Alors, vous savez, tout à l'heure, je voyais la discussion autour de la définition de la pauvreté. Alors, vous savez, quand une personne ou un ménage dépense plus de la moitié de son budget dans l'alimentation, c'est un ménage pauvre. Ça, c'est une définition claire. Voyez-vous. Donc, quand on regarde aujourd'hui les Congolais, la plupart des Congolais, je parle bien du Congolais moyen, ils dépassent presque 80% de leur budget, si pas plus, dans l'alimentation tous les jours. Donc, on est là vraiment dans la pauvreté. Et ça, c'est la pauvreté extrême qu'il faut éradiquer.
Au-delà de 60%, c'est la plupart des
cas. Alors, donc, c'est la réalité qu'on a là aujourd'hui dans notre pays. Donc, il faut contrer ça. Alors, évidemment, quand on voit, il y a quand même quelques évolutions sur le plan macroéconomique. On ne peut pas les nier. On voit qu'il y a quand même une grande différence entre l'époque où on a connu l'hyperinflation, où on atteignait des taux des 1000, 2000% d'inflation. Aujourd'hui, là, depuis quelques années, on a un taux d'inflation qui est maîtrisé. On a une monnaie qui est stabilisée. C'est des paramètres macroéconomiques qui donnent de bonnes indications, mais ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement fasse mieux. Ou plutôt aille maintenant
le social. Par exemple,
il faut accroître le nombre de gens qui doivent avoir accès à l'eau dans les milieux ruraux. Qui a accès à l'eau courante? Je ne parle pas d'eau potable, à l'eau courante. Et si on regarde dans les grandes villes, tout à l'heure on vous citait l'exemple de Bukavu ou de Goma, c'est un désastre. Vous avez un lac et les gens n'ont pas de l'eau. Et quand vous êtes dans une ville comme Bukavu, c'est assez révoltant de voir que du côté de Bukavu où on a des courants qui vient de la même centrale, on manque du courant à Bukavu et de l'autre côté de la frontière, on voit qu'il y a du courant en permanence. Il y a donc de quoi révolter les Congolais qui habitent dans ces endroits-là. Donc je pense que on doit faire une politique qui encourage l'emploi d'abord, parce que c'est l'emploi qui est source de revenus qui peut permettre l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc une politique qui incitera les gens. Et pour moi, le premier secteur qui doit être le secteur porteur d'emploi dans ce pays, c'est le secteur agro pastoral. Donc si on veut développer ces pays, il faut qu'on commence par développer notre agriculture. Et ce n'est pas avec une agriculture qui est basée sur de grands projets comme le grand parc agro-industriel et autres qu'on va faire ces développements-là. Parce que là, on est en train de faire de nos paysans qui travaillent dur, qui produisent beaucoup, on va les transformer en ouvriers, salariés qui vont avoir un salaire de misère, donc encore conditionner, disons, détruire leur, dégrader leur condition de vie. Donc il me semble qu'on est là dans ce qu'il faut faire. Et deuxième volet qui me semble prioritaire, à part l'agriculture, il faut faire donc de l'éducation notre priorité. Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir les ressources humaines compétentes, les personnes qualifiées. Je suis toujours un peu choqué quand il y a des investisseurs qui viennent, qui veulent venir ici, ils ne trouvent pas de la main d'œuvre qualifiée dans les différents domaines. Des ouvriers qualifiés pour faire de la maintenance de ci ou de ça. Et c'est là que nous devons concentrer nos efforts pour qu'on puisse avoir des gens qui vont travailler dans ce secteur-là.
Merci, professeur. On redonne la parole. Christophe, évangéliste Christophe de Goma, dit ceci. Je pense que ce rapport a fait allusion à l'eau de pluie que nous sommes en train de... il dit ceci. Je pense que ce rapport a fait allusion à l'eau de pluie que nous consommons, que nous sommes en train de consommer ces derniers temps. Néanmoins, j'avais une question. Ce rapport est-il le fruit d'une enquête ou celui de la précipitation pour justifier sa tâche ou attribution, donc la tâche du ministre du plan?
Très bien. Comme nous l'avons dit, je réaffirme que ce rapport est le fruit d'une enquête qui a bel et bien été menée. D'ailleurs, la base de données de cette enquête qui a été anonymisée va être publiée sur le site de telle sorte que tout scientifique peut y accéder et peut faire n'importe quelle analyse et voir s'il va aboutir au même résultat. Donc, nous avons des données statistiques, les questionnaires sont là, donc toute personne qui en a besoin, parce que la base a été anonymisée, on va mettre ça sur le site et toute personne peut y accéder et faire n'importe quelle analyse. C'est vrai, je comprends la réaction des uns des autres. C'est vrai, quand on était à un taux de 6% pour l'accès à l'électricité, on est à 15% par rapport à l'ensemble des Congolais. C'est vrai qu'il y a encore un grand effort à fournir. C'est pourquoi que c'est tout à fait normal que cela ne soit pas encore ressenti. Mais l'analyse que nous faisons ici, c'est une analyse objective. Nous regardons les choses objectivement entre deux périodes. Comment les choses ont évolué? Est-ce que les choses ont évolué? Et nous cherchons une explication. Pourquoi c'est évolué? Il y a eu des travaux de reconstruction qui ont été lancés. Il y a des réformes en cours. Jadis, dans notre pays, pour ouvrir une entreprise, ça prenait du temps. Maintenant, avec l'amélioration du climat des affaires, en 4 jours, même moi, vous pouvez créer une entreprise. Donc, toutes ces réformes, il faut le dire, ont joué favorablement à cette amélioration.
Alors, il faut déjà conclure, monsieur Marcel Kanda.
Donc, pour conclure, nous disons que ces résultats sont encourageants, mais ça doit davantage stimuler l'effort du gouvernement. Davantage stimulé pour aller vers répondre aux attentes de la population.
Merci, voilà. Monsieur Kanda. Valentin Moubaké, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population sente vraiment que la pauvreté a baissé en RDC?
Le problème du Congo, c'est un problème de redistribution des richesses, des revenus. Le Congo produit énormément, mais ce qui est produit au Congo n'appartient pas aux Congolais. Alors, toutes ces réformes qui sont entreprises, que ce soit celles relatives à doing business, hein, le climat des affaires, les affaires, c'est pour ceux qui viennent cueillir, piller et s'en aller. Le Congo doit savoir donner à de la valeur ajoutée à toutes ses ressources naturelles. Et aussi longtemps que le Congo n'aura pas donné de la valeur ajoutée à ses ressources naturelles, sur lesquelles d'ailleurs se base l'économie actuelle, ça veut dire la forêt, les mines et l'eau. Aussi longtemps que le Congo n'aura pas fait ça, le Congo va rester pauvre et les autres vont s'enrichir sur le dos du Congo, comme cela est le cas aujourd'hui.
Alors, le prof Maïn doit parler de l'éducation, faire de l'éducation une priorité, mais aussi une politique qui encourage l'emploi.
Mais tout à fait, parce que quelle est la condition de sortir de la précarité, de la pauvreté? C'est l'emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de revenus. Oh, 80% de Congolais sont pauvres. Au moins le ministère du plan reconnaît ça. 80% de Congolais sont chômeurs. Alors, où est-ce qu'ils auront des revenus sûrs et stables pour dire qu'ils peuvent sortir de la pauvreté. Donc tout ce qui se fait là, des chiffres sur lesquels on est en train de nous parler, ce sont des chiffres sur papier qui n'ont rien à voir avec la réalité.
Merci Monsieur Moubaké. Professeur, un mot en guise de conclusion.
Bon, si je peux dire un mot, je pense qu'il faut faire un effort pour produire davantage, parce que les budgets qu'on a là au Congo aujourd'hui, des 8,9 milliards de dollars par an qui est prévu, si on divise pas par le nombre d'habitants, on aura à peu près 127 dollars par an par habitant, ce qui fait à peu près 0,34 dollars par jour par Congolais. Vraiment, donc on est là dans un scandale pour un pays qui est potentiellement trop riche, donc il y a moyen de faire mieux.
Merci professeur. Oui. Juste un mot.
Pour proposer ou préconiser des bonnes politiques publiques, il faut connaître les caractéristiques de la population. Et ça, c'est une enquête qui nous donne des éléments qui nous permettront d'avoir des bonnes politiques pour améliorer les conditions de vie.
Merci, Monsieur Kanda. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer pour vous cette émission. Alain Rung, Berry Luchaka, sous la supervision de Julien Niamouni. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.